On va revenir sur la mort de Mathis, 15 ans. Il a été poignardé de plusieurs coups de couteau au niveau du thorax. C'était samedi en début de soirée à Châteauroux. Un adolescent de 15 ans et sa mère de 37 ans ont été présentés aujourd'hui à un juge pour homicide volontaire. On va tout de suite écouter les réactions sur place.
Vous venez se recueillir parce que c'est pas dans Châteauroux ça. C'est pas dans les gènes de Châteauroux. Voilà. Les jeunes de Châteauroux ne s'entretuent pas. Il se passe quoi dans leur tête à 15 ans? À 15 ans, on va pas s'entretuer, voilà.
On pourrait très bien être les parents qui ont perdu un enfant. Moi, j'ai une fille de 10 ans, un enfant de 2 ans. Ma fille a appris ça. Elle s'est mise à pleurer, elle a peur d'aller à l'école. Enfin, j'ai dû la rassurer. Donc, voilà, on peut tous être touchés par ça. Et je pense que n'importe quel enfant de 15 ans ne mérite pas de perdre la vie.
Un jeune de 15 ans, quand même, se faire tuer, c'est incroyable. Hein, c'était une bonne famille, un bel enfant, et on est dans la tristesse.
Voilà, nous en rejoint sur le plateau Laurent Valdiguier, journaliste d'investigation au magazine Marianne. Bonsoir à vous, Laurent et Adama Camara. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir.
Vous êtes l'auteur de numéro 55852. À vouloir venger mon frère, j'ai failli tout perdre aux éditions Latte. Vous êtes fondateur de l'association Sada.
La thèse,
pardonnez-moi, ouais. Je lis bêtement mon texte. Vous avez tout à fait raison, c'est moi qui suis... Je me concentrais en fait sur le numéro 55852, c'est votre numéro de...
D'écrou, quand j'étais en détention.
Quand vous étiez en détention, exactement. Parce que vous avez voulu donc venger votre frère, qui était mort, frère cadet, tué dans une rixe à Garges-lès-Gonesse dans le Val-d'Oise en 2011.
C'est ça. Ben pour pas revenir sur mon histoire, de toute façon je l'ai assez raconté. Moi aujourd'hui, sur les 5 dernières années, le constat que je fais en étant sur le terrain, c'est beaucoup de jeunes qui perdent la vie à coups de couteau. Énormément de jeunes. Aujourd'hui, avec mes interventions que je fais un peu partout en France, je me rends compte que les jeunes me disent souvent, ils ont un couteau pour se protéger. Je sais pas à partir de quel moment on a dit qu'on se protège avec un couteau. Et je leur explique à quel moment on se protège avec un couteau. Parce que même si on a une bande rivale qui nous tombe dessus et qu'on utilise ce couteau, on va finir meurtrier. Et ça, c'est une réalité. Et beaucoup de jeunes même m'ont déjà dit, oui, mais moi, je vise les jambes. Je vise la cuisse. Mais on a oublié qu'il y a l'artère fémorale. Faites le test, du moins. Faites un sondage et regardez combien de jeunes sont morts parce que l'artère fémorale a été touchée. Donc la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment se fait-il que les jeunes aujourd'hui banalisent de marcher avec un couteau? Ils vont à l'école avec un couteau, au cinéma, au sport avec des couteaux. À partir du moment où ils peuvent se faire attaquer, à ce moment-là, ils vont sortir leur couteau pour peut-être dissuader aux ébus. Mais si le couteau ne dissuade pas la personne qui est en face, ils peuvent l'utiliser. Donc la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est comment on fait vraiment pour sensibiliser ces jeunes à ne pas marcher avec des couteaux.
Et c'est la question qu'on va se poser, juste d'un mot, vous avez dit, je ne vais pas revenir sur mon histoire, est-ce qu'on peut quand même vous demander de rappeler ce qui s'est passé?
Non, parce que je l'ai déjà fait beaucoup de fois, on sait, voilà, malheureusement, quand il y a une personne qui se fait tuer dans une famille, c'est toute une famille qui est détruite, c'est une famille qui est touchée, et effectivement, derrière, on peut aussi être tenté par la vengeance. Aujourd'hui, j'accompagne énormément de familles, vu que le niveau de la justice prend beaucoup de temps, nous avons aussi des familles, des fois, qui pensent à se venger, à se faire justice soi-même. Donc la réalité, elle est là. Donc moi, malheureusement, oui, j'ai succombé. Heureusement, Dieu merci, j'ai tué personne. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je me bats. Parce que au-delà de voir une personne qui a voulu se venger, il faut voir que derrière, il y a quand même des souffrances. C'est des personnes, c'est des vies qui sont brisées. Ce jeune qui a perdu la vie, malheureusement, sa vie, elle est brisée. Du moins, elle est plus sur terre. Mais sa famille, c'est des familles brisées. Aujourd'hui, j'accompagne énormément de familles sur cette problématique de Rix. C'est des familles brisées. C'est des familles qui souffrent. C'est des mamans qui pleurent la mort d'un enfant. Et une phrase d'une maman, des mamans qui me disent souvent, c'est Adama, de base, c'est pas aux parents d'enterrer leurs enfants. Ça doit être le contraire. Et aujourd'hui, on a tellement banalisé la violence dans les établissements et un peu partout, parce que je peux vous dire aussi que quand j'ai commencé il y a 4 ans, je me suis jamais dit que j'allais sensibiliser des CM2. Et on a commencé cette année, on a monté un module chez les CM2. Et dès la CM2, ils sont déjà préparés, j'ai l'impression. Ils connaissent les réseaux sociaux, ils sont déjà sur les réseaux sociaux. Et ça aussi, c'est un fléau et c'est un problème. Donc, je pense qu'il faut se concentrer, de savoir comment on trouve les solutions pour pouvoir vraiment sensibiliser. Moi, je martèle souvent la sensibilisation parce que, pour moi, ça passe par là, par la sensibilisation. Avertir, prévenir les jeunes pour éviter qu'ils tombent dans ce phénomène.
On va parler justement des solutions. On parle donc de la mort de Mathis, 15 ans. Ça s'est passé à Châteauroux samedi en début de soirée, vers 18h. Alizée Boissin nous a rejoint. Alizée, on va revenir donc sur le déroulé des événements. Que s'est-il passé donc ce week-end?
Oui, la rixe, elle a eu lieu samedi donc à 18h et l'interpellation du suspect permet de comprendre aux enquêteurs en tout cas le contexte dans lequel s'inscrit la mort de l'adolescent de 15 ans. Pour ça, il faut remonter d'abord à samedi matin, 27 avril donc. En garde à vue, le suspect, il explique eh bien, qu'il y a d'abord eu une altercation entre lui et Mathis, samedi matin. Selon lui, Mathis lui aurait asséné des coups de poing et l'aurait insulté, le qualifiant de « fils de Ben Laden »,« fils d'Afghan », ce sont ses mots. Et cette déclaration, elle a été confirmée par des témoins aux policiers. Devant les enquêteurs, il précise aussi avoir subi des faits identiques de la part de Mathis quelques semaines auparavant. Alors, incapable de calmer sa colère, l'adolescent, chez lui, décide de ressortir en fin d'après-midi, cette fois-ci armé d'un couteau. Il s'en prend à Mathis, qui se trouvait alors dans une voiture avec des copains dans Châteauroux, dans le quartier de Saint-Denis exactement. Mathis réussit à sortir de la voiture. Avant de s'effondrer, un peu plus loin, son agresseur le rattrape et lui assène à nouveau des coups. Alors, l'autre question de cette agression, eh bien, c'est quel est le rôle de la mère du suspect ? La mère, pressentant la vengeance de son fils, l'aurait suivi. Des témoins, d'ailleurs, l'affirment l'avoir vu frapper Mathis lorsqu'il était à terre. Cette mère, eh bien, elle nie ces faits-là en garde à vue. Deux heures après les faits, donc cette rixe qui a eu lieu aux alentours de 18h, je vous le disais, eh bien, le suspect et sa mère ont été interpellés. Ils ont donc été ensuite en garde à vue pendant 48 heures.
Merci beaucoup, Alizée Boissin. Laurent Valliguet, est-ce qu'on peut revenir sur le profil de cet adolescent de 15 ans soupçonné d'avoir causé la mort de Mathis?
Oui, on sait qu'il est afghan, qu'il a 15 ans lui aussi, et puis qu'il était connu de la justice pour deux affaires récentes, des vols de portables avec armes, et qu'il avait été mis en examen pour ça assez récemment, le 22 avril, je crois. C'est vrai que ce soir, on a aussi entendu le père de Mathis sur RTL, qui disait exactement comme vous. Hein, il avait la voix à la fois d'un papa qui venait de perdre son 15 ans, c'est quand même petit, c'est un enfant à 15 ans, hein, qui venait de perdre son fils et qui avait déjà compris qu'aucune colère ou aucune loi ne lui rendrait.
Voilà ce qu'il dit précisément. Faites attention à tous les bords, de droite ou d'ailleurs, qui s'approprient ce genre de choses. On va faire les choses en mémoire de notre fils, qui était un vrai gentil. Donc, on va rester dans la gentillesse et puis ne pas partir dans la haine ni la violence.
C'était voilà les mots
du père de Mathis ce soir.
C'était très émouvant et puis c'était justement un appel au calme, sachant que le préfet a déjà envoyé des renforts de CRS dans la cité. L'enquête, les deux personnes, donc le jeune et sa maman, parce que l'originalité, entre guillemets, de cette histoire.
C'est l'implication de la mère.
C'est l'implication de la maman, de la mère, 37 ans. On ne sait pas pourquoi elle est descendue avec son fils. Ce qu'elle savait à ce moment-là, quand il a décidé de venir en découdre avec Mathis pour une raison d'un contentieux entre du matin ou de plusieurs jours. Ça, on ne sait pas. C'est l'enquête qui le dira. Et puis surtout, on ne sait pas si elle a eu conscience qu'il prenait un couteau. Et s'il avait l'intention de s'en servir. C'est très important pour la suite de l'enquête, pour éventuellement des qualifications pénales.
De préméditation.
Et puis aussi, on ne sait pas, à ce stade, certains témoins disent l'avoir vu gifler Mathis après qu'il ait reçu des coups de couteau. Apparemment, d'autres disent qu'elle a essayé de le réanimer, au contraire. Donc, tout ça est encore un peu confus. Et c'est pour ça qu'ils sont présentés tous les deux devant un juge d'instruction ce soir, et que la question du placement en détention du jeune de 15 ans se posera, et puis le sort judiciaire de sa maman se posera aussi, et avec toutes les conséquences possibles, dans un cas comme dans l'autre, si elle a participé à l'homicide, à la vengeance de son fils, alors pour le coup, ou si au contraire, elle aurait tenté de l'en dissuader, ça on ne sait pas.
Vous le disiez donc, ce jeune d'origine afghane en situation régulière était connu des services de police pour deux procédures pénales en 2024, dont l'une pour vol aggravé avec violence, ce qui fait que certains se posent la question, pourquoi est-ce qu'on ne le contrôlait pas plus? Il était sous contrôle judiciaire, soit en liberté, mais sous certaines conditions. Est-ce qu'il y a eu une part de laxisme là-dedans? On écoute le maire de la ville.
C'est une ville meurtrie aujourd'hui, Châteauroux. On va peiner à se remettre de ce drame. C'est pour ça qu'il y a de la colère, parce qu'on se retrouve face à deux jeunes de 15 ans, un meurtrier avec quatre coups de couteau mis au jeune Mathis. Et un meurtrier qui avait déjà été interpellé les semaines passées, qui n'avait pas pu être incarcéré parce que, ayant moins de 16 ans, la législation française ne le permet pas. C'est pas que la justice l'a pas voulu, c'est pas que la justice a été défaillante, c'est que la justice, elle applique la loi. Et aujourd'hui, on peut pas incarcérer un jeune de moins de 16 ans, même s'il a déjà été interpellé à deux reprises pour des faits de violence.
Donc, il n'y a pas eu laxisme. Le contrôle judiciaire, c'est le seul outil dont on dispose pour les mineurs de 15 ans.
Alors, c'est vrai que la justice des mineurs, il faut s'arracher le peu de cheveux qui me reste pour essayer de la comprendre. D'ailleurs, dans tous les parquets de France, il y a des espèces de mémos en couleur pour expliquer aux parquetiers dans quel cas il faut utiliser. Le principe général, sachant qu'elle a été, c'est une justice qui a été détricotée sans cesse depuis 1945. Le principe de la dernière mise en œuvre, c'est de séparer les faits de la sanction, qui est deux audiences différentes, avec entre les deux des mesures adaptées de réinsertion, de choses intermédiaires, pour que les mineurs ne soient pas immédiatement en prison, sachant que on sait que la prison à cet âge-là, c'est quand même un peu l'école du crime, c'est pas forcément la solution immédiate. Là, pour une tentative de vol de téléphone avec couteau, s'il avait été incarcéré, il faudrait, les prisons qui sont déjà pleines, il faudrait, les juges d'instruction vous disent, c'est inenvisageable d'incarcérer tout. Voilà. Ça serait beaucoup trop. Donc, en revanche, tous les magistrats de ce secteur savent bien que ça cache des réalités très, très différentes. On dit les mineurs, mais c'est trop général. Et qu'en fait, il faudrait un suivi, un peu au cas par cas, bien plus adapté, bien plus réactif, bien plus rapide, pour pas laisser dans une espèce de zone de 2 mois, 3 mois, d'une période de temps trop longue, entre une solution judiciaire et sa sanction.
Alors, évidemment, tous les politiques n'ont pas respecté les mots du père de Mathis et se sont emparés très vite de la question. Marine Le Pen, qui dit la chose suivante, à 15 ans, il avait la vie devant lui, le jeune Mathis est tombé poignardé à Châteauroux par un Afghan connu de la justice. Combien de nos enfants paieront encore de leur vie cette folle politique migratoire, la politique migratoire française qui est pointée par le Rassemblement National? Jordan Bardella a fait le point tout à l'heure.
Chaque jour, vous le voyez, ces faits de société se multiplient dans l'impunité et l'indifférence générale. L'ensauvagement de notre nation n'est pas une fatalité. Elle résulte de choix politiques et il est possible de faire autrement pour rendre aux Français, à tous les Français, leur sécurité. Expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers. Arrêt de l'immigration. Réforme du droit d'asile qui permet trop souvent d'accueillir chez nous des individus à problème. Protection de nos frontières, sévérité des peines contre les mineurs. Cet arsenal n'est plus seulement nécessaire, il est vital et il ne manque plus que la volonté politique.
D'abord, en l'occurrence, là, on parle de quelqu'un en situation régulière.
Oui, d'abord, oui. Je pense même qu'il a peut-être la nationalité française déjà, non? Qu'en est-il exactement?
Non, situation régulière.
Mais en tout cas, il a commis les faits qui auraient pu amener son expulsion quand il avait, s'il était adulte, quand il y a 15 ans maintenant, il avait 13 ou 14 ans. Comment est-ce qu'on expulse un enfant de 14 ans? C'est évidemment totalement impossible. Ce que dit M. Bardella, là, c'est pas pensable.
Juste ce qui est particulièrement dégueulasse, je suis désolé, hein, à la fois dans le tweet de Marine Le Pen et dans l'allocution de Jordan Bardella, c'est l'irrespect total envers la famille de la victime de Mathis, qui a dit explicitement...
Pas de récupération.
Pas de récupération. Et qu'est-ce qu'ils font? Comme des vautours, ils se jettent sur le moindre fait divers pour déblatérer et dérouler leur
programme. Il n'empêche que l'ultra-violence entre jeunes, on parle quand même d'un adolescent de 15 ans tué par un autre adolescent de 15 ans. Il est au cœur aujourd'hui d'ailleurs de rencontres entre Gabriel Attal et des groupes politiques.
Ça a commencé par LFI.
Ça a commencé par LFI, exactement. On parle notamment de la levée de l'excuse de minorité qui diminue par deux la peine encourue par ces mineurs.
Elle peut la diminuer.
Ça a démarré avec le discours de Gabriel Attal la semaine dernière à Viry.
Viry Châtillon.
Non, d'abord, il y a le discours de politique générale, tu salis, tu nettoies, mais surtout il y a le discours de Viry Châtillon où là, après une succession de faits divers, le Premier ministre fait un discours devant l'établissement. Où est mort un adolescent il y a une quinzaine de jours à peu près. Et c'est dans ce discours, à la fin du discours, à la surprise générale, qu'il lance cette idée d'une atténuation de l'excuse de minorité. un mot surprenant, d'autant plus que ça a été, ça a donné lieu à une petite passe d'armes avec le garde des Sceaux qui, lui, ne veut pas qu'on touche.
Il n'est pas d'accord.
Excuse de mériter. En gros, pour faire simple, Laurent a expliqué tout à l'heure qu'on a détricoté depuis 1945 l'ordonnance des mineurs. L'excuse de minorité conduit à ce que les peines soient divisées par deux pour les mineurs en situation d'être condamnés par la justice. Gabriel Attal, qui voit bien la pression qui est faite par la droite, une partie de la droite et surtout l'extrême droite, qui veut...
Et surtout l'opinion. Et surtout l'opinion.
Oui, alors... L'opinion, mais ce sont des matières assez compliquées parce qu'il faut savoir que pour revenir là-dessus, la France est quand même liée par des traités internationaux. Enfin, tout ça, il faut aussi parler de choses qui soient possibles. Alors après, bon, l'extrême droite elle est pas au pouvoir, elle peut dire ce qu'elle veut. Donc, mais par contre, pour le gouvernement, là, il y a quelque chose d'extrêmement compliqué. Gabriel Attal a mis le doigt dans cette affaire. Je ne sais pas comment il en sort. Un, il aurait un problème avec son garde des Sceaux qui ce week-end a dit dans la tribune dimanche, ma boussole c'est la Constitution.
Donc en gros, ça ne se fera pas.
Deux, il aura un problème aussi à mon avis avec sa majorité, parce que la majorité actuelle, à mon avis, ne reviendra pas là-dessus, sachant que dans le premier quinquennat, ça a déjà été mis en débat et la majorité Macron.
Plus au fond, la violence chez les jeunes, c'est quelque chose de constitutif qui a été étudié par toutes sortes de spécialistes, par la psychanalyse. On peut se référer aux travaux de Lacan, par exemple. Et tout au long de l'histoire, les enfants, parce qu'il y a une immaturité, parce qu'il y a des problèmes d'autorité, d'encadrement depuis très longtemps, les enfants sont violents. La violence des enfants, quand on lit vraiment La guerre des boutons de Louis Pergaud, dont on a fait au cinéma des versions très édulcorées, c'est d'une violence incroyable,
mais
la guerre
violence,
des boutons. Il y a des tortures dans la guerre des boutons.
Est-ce qu'elle est plus importante maintenant, Roselyne ? Ou c'est juste qu'on en parle plus ?
Moi, je pense qu'il y a un effet... J'essaie d'être prudente, mais il y a un effet de focal, oui, à l'évidence.
Adama Camara, quelle solution pour vous ? Vous parliez tout à l'heure de la banalisation maintenant des attaques au couteau. Est-ce que c'est pas ça ? C'est le réinculquer la valeur de la vie, en fait. On ne peut pas juste prendre un couteau et aller tuer un jeune parce qu'on veut se venger.
La valeur de la vie, et je pense que dans tous les cas, on ne tire aucune leçon de tout ce qui se passe depuis plusieurs années. Il y a encore quelques semaines, il y a eu des marches blanches parce qu'un jeune s'est fait tuer. Aujourd'hui, il y a un autre jeune qui se fait tuer et... Moi, quand je vois les tweets politiques, etc., je me dis c'est au-delà de la politique, on parle de vie humaine. Que ce soit un Afghan, un Noir, un Blanc, ça reste des humains, des enfants qui meurent, des enfants qui tuent des enfants, on en est là aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on doit mettre en place ? C'est ça la vraie question. Au-delà de parler de la justice, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour ceux qui ne sont pas encore sous les mains de justice ? Qu'est-ce qu'on doit dire à ces jeunes ? Il y a une banalisation claire de la violence, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit dire ? Moi, je martèlerai toujours qu'il faut encore plus de sensibilisation, parce que encore aujourd'hui, j'étais dans un collège à Ris-Orangis et je parlais de la justice des mineurs. À partir de quel âge les jeunes sont responsables pénalement ? Et malheureusement, ils ne savent pas à partir de quel âge ces jeunes peuvent aller en prison. Souvent, on peut me dire que ça peut être les parents qui vont en prison à leur place. Donc, il y a une réelle méconnaissance au niveau de la justice. Il faut, même si on le dit, nul n'est censé ignorer la loi, il faut mettre la loi dans les établissements. Et la réalité, elle commence là. Parce qu'à partir du moment où les jeunes vont prendre conscience à partir de quel âge ils peuvent être responsables pénalement et la vie humaine, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des jeunes qui disent « Ben moi, je lui saute dessus directement, je lui mets un coup de couteau », comme si c'était normal. Mmh. Aujourd'hui, on peut fouiller des sacs de ces jeunes qui vont à l'école. Je pense qu'on va être choqués en fin de journée. Donc la réalité, elle est là. On peut dire que c'est pire qu'avant, mais il y a aussi les réseaux sociaux. On l'a vu pendant les émeutes. Mmh. Pendant les émeutes ont explosé aussi à cause de ce problème des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons des CM2 qui ont accès à Internet, accès aux réseaux sociaux. Donc, ça fait peur pour l'avenir.
Merci à vous, Adama Camara, d'être venu sur notre plateau et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci aussi à vous. Laurent Valdiguier.